France Info.
Un homme de 17 ans a donc été interpellé et placé en garde à vue en fin d'après-midi après la mort de cet adolescent de 15 ans à Viry, agressé hier à la sortie de son collège. La victime a été opérée dans la nuit et est décédée donc dans l'après-midi. D'après les premiers éléments de l'enquête recueillis par France Info un peu plus tôt, il était question de 2 ou 3 individus encagoulés qui l'ont agressé en sortant précipitamment d'une allée, d'après le récit donc d'un automobiliste qui a découvert le collégien allongé au sol, inconscient, et qui a donné l'alerte. Ce drame, il faut le dire aussi, survient après une autre agression, mardi, à Montpellier, là aussi à la sortie d'un établissement scolaire, une jeune fille qui a été blessée. 3 personnes ont été interpellées, ont reconnu les faits et vont donc être jugées. L'école doit être un sanctuaire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, on va l'entendre, qui était en déplacement ce matin dans un collège à Paris, c'était prévu avant ces drames. Il appelle à protéger l'école d'une forme de violence désinhibée. On l'écoute.
Moi, je veux que le gouvernement et nous serons collectivement intraitables contre toute forme de violence. Et je l'ai toujours dit, comme nous l'avons été quand il y a eu d'ailleurs des émeutes. Ça a été le record d'interpellation de garde à vue, y compris de mineurs. Donc nous sommes intraitables, nous continuerons de l'être. Ça s'est passé hors de l'école, à plusieurs centaines de mètres. Je ne sais pas si l'école est liée à cela. J'attends d'avoir là aussi, comme je le disais hier, la vérité des faits, y compris sur Viry. Ce que je veux d'abord ici redire, c'est que l'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants. Pour nos enfants, pour leurs familles, pour les enseignants.
Voilà, l'école doit rester un sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Franck de Dieu ?
Un sanctuaire, ça veut dire que c'est un endroit qui est celui de la République.
Oui.
Qui est un lieu, qui est un ciment national, social, où les gens apprennent, et plus généralement, apprennent à vivre ensemble dans une société pacifiée. Ça suppose qu'il y ait des bornes et qu'il y ait aussi des interdits stricts, et notamment la violence. Au-delà de cela, on en parlera avec Véronique sur les réseaux sociaux. Je pense que nous, on a fait des enquêtes à Marianne. On a notamment donné la parole aux lecteurs pour leur demander, mais vous, recréer ce sentiment républicain d'appartenance à quelque chose qui nous est commun, avoir un destin commun et avoir envie de le porter ensemble, qu'est-ce que vous proposez ? On a fait des propositions, on les a entendues. L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs est un sujet qui apparaît très rapidement. Alors, sur le plan technique, j'avoue que je passerai la parole à Véronique qui nous éclairera là-dessus. Il faut savoir qu'en Floride, il n'y a pas si longtemps, vous avez une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 14 ans. Et comme il s'agit de collégiens, pour les 14-15 ans, vous avez une autorisation parentale qui est requise.
Comment vous faites respecter ça ?
Alors, juste pour terminer, un chiffre tout de même qui prend la mesure de ce sujet, ce n'est pas simplement un vecteur de violence, c'est pas que ça, c'est aussi un vecteur de savoir, mais c'est quand même aussi, je dirais, une forme d'attention à l'égard des écrans. Vous avez une étude de Pew Research qui disait qu'il y a un adolescent sur 6 qui est presque constamment sur les réseaux sociaux. Donc vous avez, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, vous avez, je dirais, un rapport à la lecture, à la raison, au raisonnement, au savoir, qui est modifié, pardon d'employer ce mot un peu cuistre, anthropologiquement. C'est-à-dire que vous avez quand même un rapport à l'autre qui est modifié par le prolongement de son bras, qui est le smartphone. Et dans cette génération-là, ça pose un vrai sujet. Et je crois que la notion d'interdiction doit être posée calmement, mais fermement.
Alors, il y a la réflexion sociétale, ce que vous décrivez quand vous parlez de la lecture, etc. Sans doute un constat sur lequel à peu près tout le monde peut être d'accord. Mais il y a comment, aujourd'hui, maintenant qu'on en est là, je ne sais pas si c'est revenir en arrière, mais comment on régule tout ça et en fait, on se heurte à ça tout le temps. Véronique Ressoult, alors, juste l'interdiction dont on parlait, Franck de Dieu, 14 ans.
Normalement,
comment on impose ça ?
Alors, si c'est un bouton.
On n'est pas un gendarme derrière chaque.
Non, souvent, c'est un bouton qui dit.
Oui, mais on utilise l'ordinateur d'un copain, voilà. D'un adulte.
Vous avez des astuces aussi qui peuvent être la carte d'identité. Vous avez certains qui proposent qu'il y ait une carte bancaire qui soit pas débité, mais avoir une carte bancaire à 9 ans ou 10 ans, a priori, c'est celle de vos parents, donc c'est quand même une discussion. Vous avez aussi la réalité des reconnaissances faciales, qui pourrait être aussi une solution. En gros, plus on pourra compliquer la vie des jeunes pour s'inscrire, mieux ça fonctionnera, mais ils contourneront toujours, et la réalité de l'interdiction, elle est quasiment impossible, parce que déjà, aujourd'hui, normalement, un enfant n'a pas à s'inscrire sur Instagram, et il y arrive... pour autant, il n'a pas à être sur Snapchat et il y arrive pour autant. Donc en fait, compter sur la réalité de parce que c'est interdit, c'est quasiment impossible. Compter sur les parents, c'est aussi difficile parce que c'est pas si simple que ça. Tous les témoignages et toutes les études qui sont faites montrent bien que interdire à son enfant d'aller sur les réseaux sociaux, lui interdire son téléphone, même tout simplement lui prendre son téléphone le soir quand il va se coucher en lui disant quand tu dors, tu n'as pas besoin de ton téléphone. Donc au moins le couper des réseaux à ce moment-là, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de parents qui vous disent, bah, ça déclenche des cris, des crises. Sûr, ils ont l'impression que on les coupe de tout. Donc c'est compliqué. Donc ça commence sans doute une éducation très tôt. Ça, l'éducation, elle va être sur les sources, sur comment ça fonctionne. Et puis on a une notion qui nous échappe un peu parce qu'on est un tout petit peu plus vieux que les jeunes dont on parle, mais la notion d'extimité qui est aujourd'hui, on met en scène son intimité et on est persuadé qu'on la maîtrise. Donc quand on est sur Instagram et qu'on fait des selfies et qu'on raconte une vie formidable, c'est compliqué après, quand vos parents le font, quand les adultes le font, d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas le faire. Et donc on a une vision déformée de la réalité.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Franck de Dieu est là pour Marianne, Béatrice Mathieu pour l'Express, Véronique Reissoult pour Backbone Consulting, et on parle donc des réseaux sociaux et de cette violence. Les réseaux sociaux, on a commencé à l'évoquer, la difficulté de contrôler. Il y a quelque chose d'un contexte sociétal. Béatrice Mathieu, quel regard vous avez vous ce soir là-dessus?
Alors deux points par rapport à ce qui a déjà été dit. Premièrement, effectivement, école, un sanctuaire. Évidemment, le problème c'est que ces deux agressions n'ont pas eu lieu dans l'enceinte de l'école, mais aux abords de l'école. Donc ça pose aussi un problème de sécurité aux abords de l'école et même sur le chemin pour rentrer chez soi. Et on sait, on ne va pas mettre des caméras partout ou des agents de police derrière chaque collégien qui rentre chez soi.
Les syndicats, je complète simplement, les syndicats d'enseignants, par exemple, et de tout le corps enseignant et d'éducation qui était pointé du doigt par certains aujourd'hui, disaient, mais avec les moyens qu'on a perdus, comment voulez-vous? On veut bien faire de la surveillance à l'extérieur, juste devant l'école, mais encore faut-il avoir les moyens d'eux.
Voilà, par ailleurs. La deuxième chose qui est sur... on est, de façon générale, ça n'est pas qu'à l'école, mais on voit bien une multiplication de ces actes ultra-violents, hyper-violents, ce qui, comme si une forme de surmoi dans la société avait disparu, et donc c'est on laissait libre cours à ces sortes de pulsions collectives qu'on a du mal à contrôler. Donc c'est un problème sociétal qui est évidemment amplifié par ces problèmes par ces réseaux sociaux, où ils trouvent là une caisse de résonance incroyable. Moi, ce qui m'interroge, et quand on regarde le côté addictif de certains réseaux, on peut parler de TikTok où les jeunes sont très, effectivement très très présents. C'est, alors je suis pas du tout une fan du modèle chinois, loin s'en faut, mais ce qui interroge quand même, c'est que en Chine, le gouvernement chinois a limité à une heure d'exposition sur TikTok les jeunes de moins de 18 ans. C'est le gouvernement chinois qui le...
Comment ils appliquent ça? Vous savez, Véronique?
Vous pouvez très bien fermer un réseau pendant un certain nombre d'heures. Vous pouvez contrôler la réalité. Mais ça s'appelle contrôler et après,
ça montre la dangerosité. Si la Chine fait ça, c'est qu'ils savent très bien, le gouvernement chinois sait très bien la dangerosité de l'algorithme TikTok. Et fait ça pour protéger sa jeunesse. Ouais. Ce qui montre que nous...
Pardon, mais pour être clair, c'est ouvert une heure ou c'est...
Limité, c'est-à-dire que pour les jeunes...
Oui, mais globalement, sur l'ensemble de la journée, non. Chaque personne... À nouveau, comment vous contrôlez, comment vous bloquez la consultation?
Je pense qu'eux savent très bien le faire.
En Chine, vous avez des points en fonction de votre comportement, du nombre d'étoiles. Vous pouvez vous déplacer ou pas vous déplacer en fonction de votre position sociale. Donc oui, ils suivent, mais c'est la Chine.
Mais encore une fois, c'est pas un modèle à suivre.
C'est pas ma question, c'est de savoir comment on fait.
Techniquement, c'est faisable.
Techniquement, c'est très faisable. Et je pense que limiter.
C'est plus faisable de faire ça que de demander aux plateformes de réguler, de modérer et de dire il faut retirer les propos de cyberharcèlement ou les messages agressifs entre jeunes. Ça, c'est impossible à faire.
On va y venir.
Parce que par ailleurs, effectivement, sur tout ce qu'on a aujourd'hui fait sur le cyberharcèlement, et notamment quand il y a eu preuve de cyberharcèlement, on dit aux cyberharceleurs, vous allez être banni pendant 6 mois, et pendant 6 mois, vous n'aurez pas le droit, vos comptes sont fermés, vous n'aurez pas le droit d'en créer d'autres, et c'est aux plateformes de vérifier que vous n'en créez pas d'autres. Donc là, le contrôle est inopérant, et d'autant plus que c'est très facile, c'est fait en 30 secondes, de créer un faux compte sous un nom X, Y ou Z. Et il y a un problème là de droit et de droit européen, qui est que dans le droit européen, il y a l'anonymat en fait en ligne sur Internet qui est inscrit dans le droit européen. Donc on voit bien que toutes les tentatives qui ont été faites pour imposer davantage, imposer une carte d'identité, etc., se bute sur la constitutionnalité du droit européen, qui est l'anonymat en ligne.
Véronique Reissoult, quand on échangeait pour préparer cette émission, aujourd'hui, vous m'avez dit la surveillance locale, c'est quelque chose qui s'envisage. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que si on demande aux plateformes de retirer avec des logiques d'algorithmes, c'est-à-dire qu'on va poser une question qui est quels sont les mots qui sont interdits ou quels sont les critères qui pourraient être retirés. Si vous êtes sur de la diffamation, ça peut s'identifier et donc il y a des actions. Si c'est des propos racistes, des incitations à la haine ou au meurtre, là aussi ce sont des mots qui sont facilement identifiables. Mais si c'est des insultes entre deux groupes, si c'est des gens qui poussent et qui insultent une jeune femme par exemple sur sa couleur,
son poids,
sa couleur de cheveux,
de façon répétée,
comment voulez-vous qu'une plateforme puisse le faire? En revanche, localement, vous pouvez avoir des ambassadeurs ou des brigades, ça dépend, dans certains pays il y a ça, qui connaissent la situation, qui surveillent, qui connaissent chacun. Si la jeune femme va les voir, va pouvoir la défendre.
Par exemple, suite à un signalement, par exemple,
exactement.
Suite à une condamnation.
Et par exemple, la fameuse jeune fille.
Ou une plainte déposée par quelqu'un.
Ou quelqu'un qui a identifié une vidéo, au moment de l'affaire Lindsay, par exemple, la vidéo qui circulait, il y avait beaucoup de gens. La petite jeune femme jeune fille qui a été harcelée, maltraitée et qui a fini par se suicider, les vidéos qui circulaient, localement, les gens les avaient identifiées et les avaient signalées. En soi, pour la plateforme, si vous avez un signalement et si vous avez des gens qui sont reconnus comme étant ambassadeurs, ils les retireraient, parce qu'il ne faut pas croire, les plateformes ne sont pas que dans une logique où ça ne les intéresse pas de réguler, c'est que c'est compliqué de réguler. Donc si on leur signale, ils vont retirer. D'ailleurs, le 3018, qui devrait être un numéro qu'on devrait répéter à longueur de journée sur le cyberharcèlement, qui est un lieu où vous pouvez être aidé, accompagné et qui signale, quand eux, ils signalent aux plateformes, les messages sont tout de suite retirés. La complexité, c'est de comprendre ce qui se passe localement. C'est pour ça que des solutions locales sont certainement une des clés intéressantes à envisager, en se disant que, vous avez des ambassadeurs, vous avez des gens qui vont pouvoir...
Vous dites que c'est appliqué par endroit,
Alors en Finlande, l'utilisent. Ils ont pas mal de pratiques dans cette logique-là et a priori, ça porte plutôt ses fruits. Et puis, vous avez des plateformes elles-mêmes qui ont tenté des logiques d'intelligence collective, à commencer par Reddit, par exemple. Ce sont les internautes eux-mêmes qui essayent de réguler et qui sont dans une logique d'appréciation sur des valeurs qui ont été préannoncées et qui sont plus faciles que simplement un algorithme qui dirait tel mot fait que ce message doit être retiré. C'est quasiment impossible.
On a une classe politique qui connaît un peu ces questions-là, ou une partie du problème vient aussi du fait que, et on va pas jeter la pierre, mais je veux dire, globalement, tout le monde est un peu perdu là-dedans, mais notamment, on n'identifie pas forcément, mais je sais pas vous, dans les différents partis politiques, des interlocuteurs, des élus qui sont très mobilisés et très au fait de tout ça.
Oui, il y en a quelques-uns, mais franchement, peu.
Vous qui les suivez.
Assez peu, et parce qu'ils sont confrontés aux problématiques de droit aussi. Et puis, on voit bien la Commission européenne, quand M. Breton pose le DMA, DSA, il y a des parties dans ce texte qui sont intéressants. Le plus intéressant est la volonté commune de dire il faut faire quelque chose.
Il faut expliquer DMA, DSA.
c'est une réglementation qui a été proposée pour réguler, pour demander aux plateformes d'être plus responsables, d'être plus plus transparentes sur leurs actions et qui peut les sanctionner s'ils ne respectent pas le droit. Mais la réalité, c'est que c'est plus complexe que simplement leur demander d'appliquer ces règles. Alors, il y a quelques éléments qui sont intéressants, en particulier sur la publicité mensongère et sur les fausses informations. Mais c'est un tout petit bout. Le reste, c'est assez utopique.
Pour conclure, Franck de Dieu.
Oui, c'est vrai que les hommes politiques, enfin les femmes politiques, on les entend davantage réagir à ces faits divers que proposer des solutions très concrètes, très techniques. Et moi, je regrette que aujourd'hui, on est dans un système, une ambiance générale où tout fait divers, hein, à l'image de Crépol, est le prétexte pour susciter des divisions idéologiques, des fractures politiques, où dans le commentariat, chacun y voit voit midi à sa porte. Donc, vous avez Sandrine Rousseau qui dit, elle y voit, je dirais, une lecture un peu féministe. Elle dit cette agression est sexiste, on doit s'habiller comme on veut, ce en quoi elle a tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tout fait divers aujourd'hui. Alors, quand il a une dimension très dramatique, comme quand il a une dimension aux aspects très futiles, prend systématiquement un caractère de fragmentation idéologique qui divise la société. C'est pour votre première question sur l'école, c'est quand même peut-être un endroit qui est un sanctuaire. S'il part de sanctuaire, c'est parce que peut-être que justement là, il ne doit pas y avoir de sujet à fracture identitaire, à guerre identitaire, qui est en train d'émerger et qui s'appuie sur n'importe quoi. De tout fait divers. Et ça, je dois avouer que c'est quand même très dangereux pour la cohésion nationale.